Notre meeting de ce soir est le début de la campagne des élections européennes de lutte ouvrière. Je donnerai successivement la parole à Jean-Pierre Mercier, dans la circonscription Île-de-France. Et à Nathalie Artaud, enseignante. La porte-parole de lutte ouvrière. Alors, avant de leur donner la parole, je vous présente les autres camarades qui sont à la tribune. Alors, tout à ma droite, Sandra Torremocha, enseignante. Dans la circonscription du Sud-Ouest. À ses côtés, Marie Savre. Formatrice en centre d'apprentissage du bâtiment et tête de liste dans la circonscription Centre et Massif Central. Ouvrier dans l'automobile qui conduit la liste dans la circonscription Nord-Ouest. Alors tout à ma gauche, Valérie Hamon, conductrice de train. Circonscription Ouest. À ses côtés, Claire Rocher, infirmière au CHU de Dijon. Tête de liste dans la circonscription Est. François Roche, ouvrier dans l'aéronautique. Qui conduit avec Nathalie Artaud la liste dans la circonscription Sud-Est. À me présenter moi-même, Sophie Robin, factrice et candidate en Île-de-France. Et je passe la parole à Jean-Pierre Mercier.
Par le gouvernement multiplie et accentue les attaques contre les salariés. Les patrons ne se contentent pas de compenser, au détriment des travailleurs, la diminution de leurs ventes sur les marchés. Non, ils anticipent l'aggravation de la crise pour supprimer des emplois, pour surexploiter ceux qui restent, pour diminuer les salaires par le biais du chômage partiel. Le but est clair, préserver les bénéfices de la grande bourgeoisie en écrasant les conditions d'existence des salariés et plus généralement des classes populaires. Je prends pour exemple le secteur où je travaille, l'industrie automobile. Depuis septembre 2008, Renault et PSA ont procédé à des licenciements secs de plusieurs milliers de travailleurs précaires. Les patrons appellent hypocritement ces licenciements des fins de mission. Mais pour ces milliers de travailleurs qui sont essentiellement de jeunes ouvriers, c'est ni plus ni moins se retrouver à la rue avec peu de chances de retrouver rapidement un emploi, ce qui se traduit immédiatement par une explosion du chômage. La conséquence directe pour ceux qui restent au travail est l'augmentation brutale de la charge de travail sur chaque poste. C'est la douleur physique des articulations qu'on ressent de plus en plus, la fatigue qui pèse un peu plus à la fin de chaque journée de travail. Car pour les patrons, diminution de production ne veut pas dire baisse des cadences, bien au contraire. Après avoir licencié tous les travailleurs précaires, Renault et PSA ont mis au chômage pendant des semaines entières des milliers de travailleurs. Mais entre les périodes de chômage, les chaînes continuent à tourner à fond, sans répit. Dans la même usine, on peut même avoir un secteur au chômage et un autre juste à côté qui tourne en pleine cadence, en 3-8, avec parfois des heures supplémentaires. L'aberration du système est que chez PSA, après avoir connu ces semaines de chômage, presque toutes les usines tournent aujourd'hui à plein régime, avec des allongements d'horaires et des samedis supplémentaires obligatoires. La direction n'arrive pas à faire face à la demande, ayant trop vidé les stocks pendant les semaines de chômage partiel et licencié trop d'intérimaires. Les industriels de l'automobile ont empoché des sommes gigantesques. Renault et PSA ont d'abord obtenu la suppression de la taxe professionnelle, puis un prêt de 3 milliards d'euros chacun. Les aides à la vente sous forme de bonus-malus et de primes à la casse. De leur côté, les équipementiers ont touché les aides de plus de 500 millions d'euros. Et pour quel résultat? Une catastrophe sociale avec l'organisation d'un véritable massacre de l'emploi, chômage partiel, fermeture d'usines et licenciements. Les constructeurs n'ont pas encore annoncé de plan de licenciement sec pour les travailleurs en CDI. Ce ne sont pour l'instant que des plans de départ dits volontaires, détruisant quand même des milliers de postes, 3500 pour PSA et 4000 pour Renault. Pour réduire leurs frais, les trusts de l'automobile font pression sur leurs sous-traitants, les poussant à se retourner contre les travailleurs. Faurecia, Valeo, Visteon, Trèves, Lear, Molex, je pourrais allonger la liste tant les annonces des plans de licenciement ou de fermeture d'usine n'arrêtent pas de tomber. Et les patrons ne prennent pas de gants. C'est après avoir empoché un chèque de 55 millions que le groupe Trèves annonce cyniquement le licenciement de 600 travailleurs en fermant deux usines. Ces fermetures sont d'ailleurs souvent organisées en toute complicité avec le constructeur. L'exemple de Molex est éloquent. Pendant des mois, PSA et Molex avaient programmé la fermeture de l'usine de Villemur-sur-Tarn, anticipant même la réaction des ouvriers, la grève et le blocage à l'annonce de la fermeture. Préventivement, PSA avait ordonné à Molex de constituer un stock de pièces et de le transporter en Hollande pour qu'il échappe au blocage de l'usine afin que les usines PSA ne soient pas à l'arrêt. Ces 85 entreprises sous-traitantes pour PSA et 80 pour Renault qui seraient en situation de plan de licenciement ou de fermeture de site. Alors ce sont bien les conseils d'administration de PSA ou Renault qui décident des plans de licenciement et des fermetures d'usines. Ce sont eux les principaux responsables du chômage alors qu'ils touchent les aides de l'État. Alors on nous dit que c'est la crise. Et les porte-voix des patrons de l'automobile dégrainaient les chiffres de baisse des ventes en France et sur les grands marchés européens au début de l'année 2009, moins 6% en France, moins 8% en Allemagne, moins 18% en Italie, moins 23% en Grande-Bretagne, etc. Mais tous ces gens-là sont évidemment moins bavards sur les raisons de ces baisses de ventes. Et c'est pourtant simple. Pour un produit comme l'automobile, plus particulièrement pour les modèles bon marché, les classes populaires constituent une grande partie de la clientèle. Mais quand on est chômeur, ou quand son salaire est amputé par le chômage partiel, on n'a pas de quoi acheter une voiture même d'occasion. Ce n'est pas pour rien qu'en revanche, malgré la crise, le secteur des produits de luxe, dont la clientèle est constituée de bourgeois grands et petits, se porte bien. Mais si la chute de la demande entraîne une baisse de la production, où est-il écrit que c'est aux travailleurs de servir de variable d'ajustement face aux fluctuations du marché? Chez Toyota, par exemple. Où était-il écrit qu'en réduisant le nombre d'heures travaillées dans l'usine d'Onin, il fallait réduire les salaires en proportion? Continuer à payer l'intégralité des salaires n'aurait certainement pas ruiné l'entreprise qui est tout de même le premier producteur automobile du monde. Il n'est même pas dit que ça aurait écorné les dividendes distribués. Alors face au chômage partiel, destiné surtout à masquer une baisse des salaires, il est normal, il est légitime d'exiger le paiement intégral des salaires et primes comprises. De Toyota ont réagi à la baisse de leur salaire et ont fait reculer leur patron.
Et dans le contexte actuel, ils n'ont pas grand chance
d'en trouver non plus ailleurs. Et comment partir à la recherche du travail lorsqu'on a une famille, des enfants scolarisés et la maison qu'on n'a pas fini de payer? Lorsque les travailleurs de Continental, de Caterpillar, de Molex, de Forestia et combien d'autres se défendent le dos au mur avec les moyens qu'ils trouvent, on entend le patronat et ses porte-paroles hurler en chœur à la violence et à l'illégalité. Eh bien, tout en sachant que retenir un haut cadre quelques heures n'arrête pas un plan de licenciement, nous ne sommes pas de ceux qui pleurnichent sur le sort des hauts cadres. Ce ne sont certes pas eux les véritables responsables. Et ceux qui décident, propriétaires ou gros actionnaires, ne viennent jamais s'expliquer eux-mêmes devant les ouvriers de leurs usines. Ils payent des cadres supérieurs pour ça. Ce sont ces derniers qui sont chargés de mentir aux travailleurs, de répéter qu'il n'y aura pas de licenciement, même lorsqu'ils savent que la décision en est déjà prise. Ce sont eux qui les lanternent avec de fausses promesses. Aussi, lorsqu'un directeur reçoit sur la tête de quoi faire une très grosse omelette, ça fait partie des risques du métier. Ça fait partie des risques du métier, donc, sans faire pour autant du jet d'œuf un moyen privilégié de la lutte de classe. Il faut que les travailleurs sachent que derrière les hauts cadres, et même derrière les PDG salariés, il y a les véritables maîtres, les propriétaires et les grands actionnaires, ceux qui ne se mêlent pas de la gestion de leurs usines et se contentent d'encaisser les bénéfices. Mais c'est aussi aux cadres salariés de choisir leur camp. Aucun travailleur ne sera ému par le cinéma de ce directeur de Molex qui se répand sur les plateaux de télévision en expliquant qu'il a porté plainte pour séquestration. Et de citer, pour illustrer l'intolérable atteinte à sa dignité, qu'il devait demander l'autorisation pour aller aux toilettes pendant quelques heures où il a été retenu à l'usine. N'importe quel travailleur sur chaîne sait que non seulement il doit demander l'autorisation pour aller aux toilettes, mais qu'il ne peut y aller que si le chef a un remplaçant sous la main. Et ça, les ouvriers le vivent 8 à 10 heures par jour, toute l'année. Alors, qui séquestre qui? Visant à supprimer plus d'un quart des emplois sur les sites de Grenoble et Échirol. Ainsi donc, une entreprise qui est en train de fouler aux pieds tout à la fois la liberté et le droit au travail pour un quart de ses effectifs agit avec la bénédiction du tribunal. Et ce sont ceux à qui leur patron refuse la liberté de travailler qui sont condamnés. Cet épisode judiciaire dans la lutte des travailleurs de Caterpillar est significatif de quel côté est la loi et dans l'intérêt de qui est définie la légalité. Les patrons peuvent, en toute légalité, licencier une partie ou la totalité du personnel, voire fermer complètement une usine ou la délocaliser. Mais de quels moyens légaux disposent les salariés pour se défendre? De quels moyens légaux disposent les travailleurs de Caterpillar pour empêcher la réduction brutale des effectifs, alors que l'entreprise qui les met à la porte a réalisé un bénéfice de 3,5 milliards de dollars pour l'année passée. Ces milliards, permettrait largement de garder tout le monde en répartissant le travail entre tous et sans diminuer les salaires. Quel est le tribunal qui interdirait aux actionnaires de Continental de fermer l'usine de Clairvoy ? Aucun. Pourquoi ? Parce que les lois ne sont pas faites pour défendre les travailleurs. Elles sont faites pour protéger les intérêts des propriétaires et des actionnaires des entreprises. Alors, tous ceux qui invoquent la loi pour s'indigner du blocage d'une usine ou de la séquestration momentanée d'un local sont de fiefés hypocrites ou des avocats des intérêts patronaux. Consacre la dictature des uns sur les autres, la première conclusion qui s'impose est que ces lois sont mauvaises et que la légalité est surtout un moyen de faire accepter leur sort aux exploités. Mais les lois ont été changées dans le sens des intérêts des travailleurs que sous leur pression. Et le choix des moyens utilisés par les travailleurs en lutte se juge en fonction de leur efficacité et pas en fonction de considérations juridiques d'une justice plus préoccupée de défendre le profit que les êtres humains. Alors les bonnes âmes nous disent que la lutte de classe n'existe plus. Mais les patrons, eux, la mènent en permanence et de plus en plus brutalement en cette période de crise. Oh ça, ils respectent les lois faites pour eux. Mais ils foulent au pied, sans état d'âme, le droit à l'existence de ceux qui constituent un obstacle devant leur course au profit. Les patrons et leurs porte-parole voudraient bien que cette lutte de classe soit à sens unique, que les travailleurs qu'ils agressent ne se défendent pas et acceptent, résignés, le sort qu'ils veulent leur imposer. Alors j'en profite pour ajouter que c'est pour la même raison que les patrons eux-mêmes, et à leur suite, les médias, éprouvent le besoin devant ce qu'ils appellent la radicalisation des luttes, de s'en prendre aux agitateurs, extérieurs ou pas. L'argument n'est vraiment pas nouveau du côté patronal. Il est utilisé depuis aussi longtemps qu'existe le capitalisme et la lutte de classe. C'est l'argument sempiternel du patron pour qui ses ouvriers, exploités, usés, mal payés, maltraités, ne peuvent être que contents. Et lorsqu'ils se révoltent, c'est parce qu'on leur a soufflé cette idée dans le creux de l'oreille. Alors suivant les périodes, ça prend des formes différentes. Il fut un temps où on parlait de la fameuse main de Moscou, ou des bolcheviques le couteau entre les dents. La dernière idée à la mode est d'accuser l'extrême gauche de ce qui se passe dans les grandes entreprises où un plan de licenciement ou une fermeture d'usine a poussé les travailleurs à se défendre. Lorsque les travailleurs d'une entreprise se mettent en lutte pour se défendre, les militants de lutte ouvrière sont de leur côté, ça c'est sûr. Mais aucun militant n'est à même de provoquer une lutte là où il n'y a pas la volonté de lutter. Aucun militant n'aurait pu provoquer chez Toyota l'indignation suscitée par le directeur de l'usine lui-même quand il a déclaré qu'il préférerait plutôt crever que de payer le chômage à 100% en cas de chômage partiel. Ceux qui ont provoqué les réactions de défense des travailleurs de Continental à Caterpillar, en passant par Molex, Forestia et tous les autres, ce sont les patrons eux-mêmes. Alors qu'ils se méfient, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, il s'agit de luttes défensives, le dos au mur. Mais plus les attaques se multiplient, plus les travailleurs, même ceux qui ne sont pas encore touchés, se rendent compte qu'ils sont tous menacés, qu'ils sont tous des licenciés potentiels. Alors à force de semer l'injustice, le patronat finira par récolter la tempête sociale. Le succès des deux journées d'action, des 29 janvier et 19 mars, et surtout la progression du nombre de participants, ont prouvé que la colère monte dans la classe ouvrière. Même les sondages ont montré la sympathie de la majorité de la population pour les travailleurs qui se battent contre les licenciements. Nous ne savons pas, et personne ne le sait, si la mobilisation du monde du travail empruntera le canal des journées syndicales ou si elle prendra la forme d'une explosion spontanée, puissante. Il y a cependant deux choses dont nous pouvons être certains. La première, c'est que si les travailleurs le laissent faire, le patronat continuera et aggravera les attaques contre la classe ouvrière, les licenciements se multiplieront, les fermetures d'usines aussi. Les patrons trouveront aussi une multitude de moyens pour réduire encore plus le pouvoir d'achat des travailleurs. La raison en est simple. Devant le rétrécissement incessant de leur marché, qui n'est pas prêt de s'arrêter, ils n'ont pas d'autre moyen pour préserver, voire pour accroître leurs profits, que de puiser dans la poche des travailleurs. Aux attaques du grand patronat s'ajouteront celles du gouvernement. L'État, en tant que patron des travailleurs des services publics, fonctionne déjà comme n'importe quel patron. Il supprime des postes dans les services publics les plus indispensables, où il refuse d'en créer en fonction des besoins, même là où c'est vital. Hôpitaux, écoles, transports. Ayant largement ouvert les robinets du budget public pour aider les banquiers et les grandes entreprises, le gouvernement sera obligé de chercher à rééquilibrer ce budget en diminuant les dépenses, là encore sur les services publics. Or, toutes les restrictions imposées aux hôpitaux, aux écoles, aux transports publics nuisent principalement et parfois uniquement aux couches populaires qui n'ont les moyens de se payer ni clinique privée ni école privée. La deuxième chose que nous savons, c'est que ce ne sont pas les luttes partielles qui peuvent faire reculer le patronat et le gouvernement sur les questions importantes. Contre une grève ou une manifestation isolée, un patron peut prendre des sanctions et par les temps qui courent, il ne s'en prive pas. L'État peut lui venir en aide en envoyant les CRS ou les gendarmes, comme il l'a fait chez Forestia à Rochelle, dans le Pas-de-Calais, ou chez Lire à Lagny-le-Sec, dans l'Oise. Et une fois les grévistes chassés de leur usine, des vigiles ont pris la relève dans la plus totale illégalité. En revanche, face à une lutte sociale allant en s'amplifiant, avec des grèves, des manifestations, au point de mobiliser un nombre croissant de travailleurs, bénéficiant de la sympathie des autres classes populaires, ni le patronat, ni l'État ne peuvent grand-chose. Ce ne sont ni les policiers, ni les militaires qui travailleront à la place des millions de salariés pour faire fonctionner l'économie. À l'appel des syndicats, les deux préoccupations qui s'imposaient, unifiant les travailleurs, ceux du privé et ceux du public, ceux des grandes entreprises et des petites, concernent l'emploi et le pouvoir d'achat. Pour préserver l'emploi, il faut interdire les licenciements sous peine de réquisition des entreprises, sans indemnité ni rachat. Et si les commandes et les ventes baissent, et si les entreprises sont amenées à réduire leur production, il faut imposer la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Préserver le pouvoir d'achat des salariés et pour relancer l'économie par la relance de la consommation, il faut une augmentation générale des salaires, des retraites, des pensions et des allocations et leur indexation sur la hausse des prix. Pour financer toutes ces mesures, il faut prendre sur le profit des entreprises qui continuent à en faire, et il y en a. Ou prendre sur les profits accumulés dans le passé, qu'ils soient gardés en réserve dans les entreprises ou qu'ils aient été distribués aux actionnaires dans les coffres forts desquels il faudra les récupérer. Ces exigences sont de simple survie. Mais si le mouvement est vraiment puissant, au point que les capitalistes commencent à craindre pour leurs profits et même pour leurs propriétés, alors, il faudra mettre en avant d'autres exigences, plus fondamentales, qui changent réellement le rapport de force. Notre camarade Nathalie Arthaud en parlera. En parlant des exigences du monde du travail, j'ai l'air d'être très loin des élections européennes. Et en effet, les résultats de ces élections ne changeront rien à rien au sort des classes populaires, surtout s'il se limite à un peu de déplacement des voix entre le camp de Sarkozy et celui de l'opposition parlementaire. Ces élections, comme toutes les élections, permettent aux électeurs au mieux d'exprimer une opinion. C'est tout ce qu'on peut demander à un bulletin de vote, mais ce n'est pas rien. Je sais, car j'entends cela autour de moi, dans mon entreprise ou dans mon quartier, qu'une partie des travailleurs qui en ont assez de Sarkozy et de sa clique, mais qui n'ont pas pour autant envie de voter pour les grands partis de gauche, ont l'intention de s'abstenir. Et assurément, le nombre d'abstentions, que tout le monde prévoit très élevé, reflétera les déceptions du monde du travail. Il reflétera le fait que tout en rejetant la droite, l'électorat populaire ne fait pas confiance au Parti socialiste et à ses compagnons de route du passé ou du présent. Lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils ont montré qu'ils ne gouvernent pas en faveur des classes populaires. Lorsqu'ils promettent, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et aujourd'hui, dans l'opposition, ils se gardent même de promettre de peur d'être pris au mot. Mais s'abstenir de voter, ce n'est pas prendre position. C'est plus ambigu que de faire un geste politique conscient. Les listes de lutte ouvrière se situent sur le terrain de l'opposition radicale à la politique de tous les partis qui mènent leur action en fonction de la gestion capitaliste de la société. Cette politique, qu'elle soit menée par la droite réactionnaire et anti-ouvrière qui s'agglutine autour de Sarkozy, ou par le Parti socialiste, autour duquel s'aggloméreraient, comme dans le passé, d'autres formations de gauche, le PC notamment, a des conséquences désastreuses pour les travailleurs et pour la majorité de la société. Eh bien, voter pour les listes lutte ouvrière, et en ce qui concerne la circonscription d'Île-de-France, pour la liste conduite par Sophie Robin et moi-même, signifiera clairement que vous êtes contre la gestion de la crise au seul profit des banquiers, des patrons et des actionnaires des entreprises. Ça signifiera que vous êtes conscient que les classes populaires doivent se défendre face au grand patronat et au gouvernement qui leur mènent une guerre féroce. Ça signifiera également que vous rejetez toute propagande qui essaie de dresser les uns contre les autres, les travailleurs d'un pays à l'autre ou à l'intérieur d'un même pays, et que vous êtes conscient que les travailleurs ont tous les mêmes intérêts fondamentaux face au grand patronat. Qu'il ne faut pas que la classe ouvrière laisse le terrain politique aux politiciens qui représentent les différentes nuances d'une même politique menée dans l'intérêt de la bourgeoisie, surtout la grande. Il faut qu'à chaque événement politique ou social se manifeste et s'affirme un courant représentant les intérêts politiques des travailleurs. Ces élections européennes constituent une occasion de plus. Alors camarades, votez et faites voter pour les listes de lutte ouvrière.
Et maintenant, je passe la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades. L'offensive offensive de la bourgeoisie contre les travailleurs se déroule à l'échelle internationale. Ce n'est pas seulement parce que la crise elle-même est mondiale, c'est aussi parce que la classe capitaliste a partout la même avidité, la même volonté féroce de se battre pour maintenir ses profits, quitte à semer la misère et la mort. Et ce n'est pas une image. Comment ne pas se souvenir que la crise actuelle, qui se traduit aujourd'hui en Europe par une explosion du chômage, s'est manifestée à ses débuts par une crise alimentaire, due principalement à la spéculation sur les matières premières en général, et plus encore sur le blé, le riz ou le maïs. Les financiers qui, en spéculant sur le blé ou le riz, faisaient en quelques secondes s'envoler le prix, condamnaient froidement, du même coup à la famine et à la mort, des centaines de milliers de personnes en Afrique ou en Inde. Ce sont de véritables tueurs en série qui tuent, du haut de leurs bureaux insonorisés et climatisés, des centres d'affaires de New York, Londres ou Paris. Et ils tuent à l'échelle industrielle. Ce sont ceux-là qui gouvernent en France, ce sont ceux-là qui gouvernent en Europe, ce sont ceux-là qui gouvernent le monde. La situation que vient de décrire mon camarade ici en France se reproduit partout en Europe et pour les mêmes raisons. Les licenciements se multiplient partout. Le chômage s'envole aussi partout. Même selon Eurostat, l'officine de statistiques de l'Union européenne, qui ne récapitule que les données officielles, bien en dessous de la réalité, le nombre de chômeurs à l'échelle de l'Union européenne dans son ensemble dépasse les 20 millions de femmes et d'hommes. 20 millions. La population de la Suisse, de l'Irlande et de la Belgique réunies. C'est comme si trois pays entiers étaient retirés de force de la vie économique, transformés en déserts industriels et commerciaux, avec une population condamnée à végéter dans la misère. Le chômage est une catastrophe sociale, et elle n'a rien de naturel. Ce n'est pas une fatalité, il est une des conséquences dramatiques du fonctionnement de l'économie capitaliste. 20 millions de personnes condamnées au chômage, dans la réalité probablement le double, c'est autant de familles condamnées à survivre avec des allocations insuffisantes dans la partie la plus riche de l'Europe et dérisoires, voire inexistantes, dans la partie la plus pauvre. Pourtant, l'Europe, plus précisément sa partie occidentale, est une des régions les plus riches du monde. Riche du travail passé et présent accumulé par ses classes laborieuses, mais riche aussi du pillage du reste du monde. Et malgré les annonces périodiques des charlatans qui prédisent le bout du tunnel en 2010 ou 2011, la situation continuera à s'aggraver. L'OCDE, l'Organisation économique des pays industrialisés, annonce que d'ici 2010, ces pays compteront 25 millions de chômeurs de plus et que le taux de chômage officiel y dépassera les 10% en moyenne. Et c'est une moyenne. En Espagne, le nombre officiel de chômeurs a déjà dépassé les 4 millions, plus de 17% de la population active. Dans certains pays baltes, vantés il y a peu pour leur essor fulgurant depuis leur intégration dans le marché capitaliste, le taux de chômage talonne les 20%. Et d'un bout à l'autre du continent, c'est le même spectacle d'usines qui réduisent leur activité ou qui ferment et qui licencient. Un peu partout, on réduit les salaires, parfois directement, parfois par le biais du chômage partiel. Le capitalisme en crise est en train d'unifier le sort des travailleurs d'Europe, mais en l'alignant par le bas. Alors, si nous nous présentons dans ces élections européennes, c'est en premier lieu pour dénoncer le système économique qui conduit à de telles catastrophes. Nous nous présentons pour dénoncer les grands groupes industriels et financiers qui exercent une dictature sur l'économie et sur toute la vie sociale, et qui sont de ce fait plus puissants que les dirigeants politiques. Nous nous présentons pour affirmer que mettre fin à cette dictature est une nécessité vitale pour l'écrasante majorité de la population partout en Europe. Il faut réorganiser l'économie afin qu'elle vise à satisfaire les besoins de tous, au lieu d'être orientée pour permettre à une petite minorité d'accumuler de plus en plus de profits. Rien que cette contagion du chômage à l'échelle de l'ensemble de l'Europe ridiculise ceux qui prétendent que l'Union européenne protège de la crise. C'est un mensonge grossier. La crise se moque des frontières. Pendant que les dirigeants européens continuaient de mentir en prétendant qu'elle resterait cantonnée aux États-Unis, elle traversait déjà l'Atlantique pour atteindre l'Europe. Un autre mensonge, tout aussi grossier mais plus dangereux, consiste à prétendre qu'il faudrait revenir en arrière, aux frontières nationales et aux protectionnismes nationaux. Les frontières n'arrêtent pas la crise. Et le protectionnisme n'est jamais fait pour protéger les intérêts des travailleurs d'un pays, mais toujours pour protéger ceux des capitalistes et des banquiers. Non, il n'y a rien à attendre de ces institutions de l'Union européenne. Pas plus qu'il n'y a à attendre, d'ailleurs, des institutions de la France, parce qu'elles sont toutes des institutions de la bourgeoisie. Ce que les dirigeants politiques de la bourgeoisie appellent la construction européenne n'a pas été fait par des idéalistes, inspirés par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations inter-européennes sur l'amitié des peuples. Elle est l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands, obsédés par la concurrence et surtout par la recherche de toujours plus de profits. Car le morcellement de l'Europe est préjudiciable depuis longtemps pour les groupes industriels et financiers qui dominent l'économie européenne et qui ont besoin d'un marché élargi pour faire bonne figure face aux États-Unis, au Japon ou face à la Chine ou l'Inde, qui même nettement plus pauvres et sous-développés, pèsent d'un tout autre poids sur la scène mondiale. Non, la construction européenne n'est pas ce conte de fées humaniste que racontent les hommes politiques les plus pro-européens. C'est une histoire de froid calcul et de sordide marchandage, où l'intérêt des peuples n'est pas entré en ligne de compte et ne faisait même pas partie des préoccupations. Comment l'Union européenne pourrait-elle représenter davantage l'intérêt des peuples, c'est-à-dire avant tout des classes populaires, que les États qui la composent? L'Europe est l'Europe du capital, pour la bonne raison que la France, l'Allemagne sont la France et l'Allemagne du capital. Et ceux qui prétendent que les coups contre les services publics, contre les quelques articles de loi protégeant les travailleurs, viennent de Bruxelles, des institutions européennes ou de tel ou tel traité, vise surtout à dégager la responsabilité de nos gouvernements, de notre classe de possédants. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit pas voulue, ou du moins avalisée par les gouvernements nationaux, dont le gouvernement français. Et par-dessus tout, les gouvernements nationaux, comme la Commission européenne, ne sont que les commis du grand capital. L'Union européenne est conçue dans les traités comme Maastricht et Amsterdam, pour accroître les profits des multinationales européennes sur le dos de leurs propres salariés, mais aussi sur la misère des peuples des pays les plus pauvres. Car leur Europe est aussi une machine de guerre pour aider leurs financiers à piller plus efficacement les pays du tiers-monde. L'Union européenne actuelle, l'Europe de la bourgeoisie, n'est ni tout à fait européenne, ni une véritable union. Pas tout à fait européenne, car un grand nombre de pays représentant près de la moitié du continent n'en font pas partie. Les uns, comme la Norvège ou la Suisse, parce qu'ils ne le veulent pas, les autres, parce qu'on ne veut pas d'eux. De l'Ukraine à la Serbie, de la Moldavie à la Géorgie, sans même parler de la Russie ou de la Turquie. Et l'Union européenne n'est pas non plus une véritable union, car même à l'intérieur, les frontières nationales sont loin d'être devenues de simples frontières administratives. Chacun des États mène sa propre politique dans une multitude de domaines. L'Union européenne est loin de devenir une entité comparable aux États-Unis, et aucune des grandes formations politiques ne propose qu'elle le devienne. L'Union européenne n'a pas mis fin non plus aux relations de dépendance économique des pays de l'Est européen par rapport aux vieilles nations impérialistes d'Europe occidentale. Oh, les causes de ces relations de dépendance ne sont pas dues à l'Union européenne. Bien avant l'Union européenne et même bien avant l'occupation par l'armée soviétique de ce qu'on a appelé pendant 40 ans les démocraties populaires, ce chapelet de pays qui s'égrènent de la Pologne à la Bulgarie avait été livré aux appétits rivaux des puissances impérialistes d'Occident. Et lorsque, à partir de 1989, à l'approche de la dislocation de l'Union soviétique, tous ces pays ont ouvert leurs frontières et leur économie à l'Occident, les capitaux occidentaux se sont jetés sur eux et se sont appropriés tous les secteurs profitables, des banques aux grandes chaînes de distribution, des entreprises industrielles au secteur hôtelier. La mainmise des multinationales occidentales sur l'économie de ces pays était un fait accompli avant même que les pays de l'Est aient été intégrés dans l'Union européenne. Et il n'était ni dans les intentions, ni dans les moyens de l'Union européenne de donner à ces pays les moyens de se défendre. Bien au contraire, toute la politique des grandes puissances impérialistes co-gérantes de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne principalement, est de priver les pays nouveaux venus dans l'Union des moyens juridiques de peser sur la politique de l'ensemble. Il restait dans le fonctionnement de l'Union européenne des vestiges de ses débuts, lorsqu'elle était l'association de quelques pays impérialistes seulement. Chacun des pays membres avait alors son droit de veto sur le fonctionnement de l'ensemble. D'où la coutume, consolidée par les traités, que toutes les décisions importantes devaient être prises à l'unanimité. C'est cette coutume qui est devenue inacceptable pour les puissances tutélaires dès lors qu'ont été admises dans l'Union européenne les semi-colonies de l'Est de l'Europe. Oh, même ce droit de veto politique ne pouvait pas préserver les pays de l'Est de la domination économique des grands trusts occidentaux. Mais c'était déjà trop. Ce droit de veto permettait aux petits pays au moins de marchander avec les grands. C'est pour mettre fin à cette situation qu'avait été concoctée cette fameuse Constitution européenne, qui n'a pu entrer en application parce qu'elle a été rejetée en 2005 par référendum en France et aux Pays-Bas. Ce rejet a été ennuyeux pour les dirigeants européens. Mais ils ne mirent pas longtemps pour concocter un autre texte, le traité de Lisbonne, qui reprend l'essentiel du projet de constitution. Autant dire que l'avis clairement exprimé de la population leur importait peu. En France, la constitution, chassée par la porte par le référendum, est revenue par la fenêtre, par un vote à l'Assemblée nationale, à la botte du pouvoir. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'Irlande ayant soumis l'adoption du traité de Lisbonne à un référendum. Et les référendums, c'est bien joli, mais quand on demande son avis à l'ensemble de l'électorat, il peut dire non. Et c'est ce qui s'est passé encore une fois. Et faire revoter les Irlandais jusqu'à ce qu'ils répondent oui, ça prend du temps. Et bien sûr, ces retards agacent les dirigeants politiques d'Europe. Mais au fond, tout cela est secondaire pour les grands groupes capitalistes. Ils ont dominé l'Union européenne avant les micmacs constitutionnels et ils la domineront après. Et avec ou sans le traité de Lisbonne, ils continuent à piller la partie sous-développée de l'Europe. L'euro a été au moins une protection contre un certain type de spéculation monétaire. Le franc français, le Deutsche Mark et 14 autres monnaies s'étant fondues dans une monnaie unique, il n'y a plus de fluctuations possibles entre elles, ni donc de possibilité de spéculer sur l'une contre l'autre. La zone euro, qui n'englobe pas l'intégralité de l'Union, a donc protégé, dans une certaine mesure, le commerce intra-européen. Mais c'est une évidence que l'Union européenne n'a pas préservé l'Europe de la crise, et elle ne le pouvait pas. Au contraire, ce qui se passe depuis 2 ans, depuis l'éclatement de la crise financière, révèle toutes les fragilités de cette Union, résultat de compromis entre ce qu'ils appellent les égoïsmes nationaux, mais qui sont les égoïsmes des différentes bourgeoisies nationales. La crise a accentué avant tout les oppositions et les inégalités entre l'Europe impérialiste et l'Europe dominée à l'Est. Elle a des contre-coups bien plus graves encore dans l'Est de l'Europe, où le chômage est bien plus élevé, où les monnaies nationales s'effondrent et où, sur la ruine des économies en débandade, se développent des courants politiques nauséabonds, racistes, anti-roms ou xénophobes contre les minorités issues de nations voisines. Mais l'alliance économique entre pays impérialistes elles-mêmes est secouée. Tous les commentateurs soulignent, pour le déplorer ou pour s'en réjouir, que l'Union européenne s'est révélée totalement incapable de réagir face à la crise. Le seul point sur lequel se sont entendus les dirigeants des principales puissances impérialistes d'Europe, c'est le chacun pour soi. C'est-à-dire que chaque État aide sa propre bourgeoisie, quitte à ce que cela compromette l'Union elle-même. Le gouvernement français a aidé PSA et Renault, celui d'Allemagne s'apprête à le faire pour Volkswagen. Tous les États de la zone euro sont intervenus dans la crise pour accorder des subventions ou des prêts avantageux à leur bourgeoisie. Partout, cela s'est traduit par une aggravation de la dette publique qu'évidemment, chaque État cherchera à faire payer à toute sa population, soit par des hausses d'impôts, soit par des économies sur les services publics. Mais évidemment, l'Allemagne et la Grèce, par exemple, ne sont pas dans la même situation. L'une est un État riche et n'a pas de mal à financer ce qu'elle donne à sa bourgeoisie. L'autre est un État pauvre. Mais, Union européenne ou pas, il n'est pas question pour l'Allemagne d'aider la Grèce à faire face à son endettement. L'Union n'est certainement pas un mariage, pas même un pax. Et le chacun pour soi, aggravé par la crise, soumet l'Union européenne à des tensions susceptibles de la faire éclater. Quant aux pays de l'Est, qui n'appartiennent pas, à deux exceptions près, à la zone euro, ils sont dans une situation plus difficile encore. Leur monnaie nationale s'effondre, d'autant plus qu'elles font l'objet d'une spéculation monétaire intense. Et, fait caractéristique, ce n'est pas l'Union européenne, mais le Fonds monétaire international qui leur prête de l'argent. En contrepartie, bien sûr, de plans d'austérité de plus en plus draconiens. Voilà comment la crise souligne les limites de l'Union elle-même. Et puis, faut-il le rappeler, alors qu'à l'intérieur, l'Union européenne est loin d'avoir transformé les frontières nationales en simples limites administratives, elle les a renforcées à l'extérieur. L'Europe des bourgeois, c'est une Europe entourée de barbelés. Ceux qui faisaient mine dans le passé de se révolter contre le rideau de fer qui entourait naguère l'Union soviétique et son glacis sont en train d'ériger un nouveau rideau, électrifié cette fois, pour empêcher le passage de ceux qui viennent de plus loin à l'Est, d'Irak, d'Afghanistan, de Russie, du Sri Lanka, voire de Chine. Et ces nouveaux barbelés de la frontière dite de Schengen partagent parfois en deux un même peuple et séparent en tout cas des peuples voisins. Le plus révoltant, peut-être, est le rideau de fer que l'on est en train d'élever en plein milieu de la Méditerranée. Les barrières électrifiées autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla et les navires de guerre qui font la chasse aux boat people pour empêcher des femmes et des hommes venant du Maghreb ou d'Afrique noire de passer sur l'autre rive symbolisent bien plus leur Europe que toutes les déclarations officielles sur les droits de l'homme. Des usines d'automobiles, les travailleurs nés en France côtoient des travailleurs nés de l'autre côté de la Méditerranée, plus souvent que des travailleurs originaires d'autres pays d'Europe. Cette Europe des marchands, si sourcilleuse sur la question de la concurrence non faussée, si prompte à réglementer à tort et à travers quand il s'agit de la circulation des marchandises, ne se soucie pas du tout en revanche des êtres humains. Si le marché est plus ou moins harmonisé, les droits sociaux ne le sont pas. Et même pour un droit aussi élémentaire que le droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, l'Union européenne s'accommode parfaitement que la Pologne, l'Irlande, Chypre et Malte le refusent. Quant à Malte, elle interdit même le divorce. Nous sommes tout à fait d'accord avec les associations qui, comme celle initiée par Gisèle Halimi, revendiquent la clause de l'européenne la plus favorisée. Cette clause impliquerait qu'en matière de divorce, d'interruption volontaire de grossesse, mais aussi de congé de durée de congé maternité, de protection contre les violences, la législation du pays où elle est la plus favorable pour les femmes s'applique à l'échelle de l'Europe. Finalement, ce qui est le plus riche d'espoir dans la construction européenne du point de vue des travailleurs et de l'avenir de la société, c'est que l'Union européenne réunit dans un seul et même ensemble géographique et économique plus de 210 millions de salariés en activité ou au chômage. Pour le moment, ces 210 millions de prolétaires ne sont unis que dans une même inquiétude devant les licenciements et devant le chômage. Eh bien, ils finiront par se rendre compte que d'une extrémité à l'autre de l'Europe, on retrouve parmi nos exploiteurs les mêmes groupes industriels et financiers. Le groupe Peugeot-Citroën n'exploite pas seulement ses travailleurs d'Aulnay, de Rennes ou de Sochaux ici en France, mais aussi ceux de Kolín en Tchéquie, ceux de Trnava en Slovaquie, ou plus près, ceux de Vigo au Portugal, ceux de Madrid en Espagne, sans parler des usines en partenariat avec d'autres constructeurs automobiles en Italie ou en Russie. Les stations-service portent les marques de la même demi-douzaine de trusts du pétrole, présents partout dans le monde, comme sont présents partout les guichets des mêmes banques. Au-delà de ce qui est visible, les mêmes grands capitaux sont derrière une multitude d'entreprises industrielles ou d'enseignes commerciales qui parsèment tout le territoire de l'Union européenne. Eh bien, ce que nous espérons, c'est que demain, les travailleurs, les chômeurs de l'Union européenne soient unis par la conscience qu'ils ont les mêmes intérêts et qu'ensemble, ils constituent une force capable d'imposer leurs droits à une existence digne. Soient conscients que ceux des autres pays ne sont pas des adversaires. Ils sont plus que nos alliés. Ils sont une partie de nous-mêmes. Le prolétariat ne pourra pas s'émanciper à l'échelle d'un seul pays d'Europe, mais seulement, au minimum, à l'échelle de l'ensemble de ce continent. Alors, tout en nous opposant à l'Union européenne et à ses institutions, parce qu'elles sont toutes des instruments de la bourgeoisie, nous avons la conviction que l'unification de l'Europe est une bonne chose. Parce que la transformation des frontières en simples limites administratives, la libre circulation des hommes et des produits, une monnaie unique pour un territoire de 493 millions de personnes, cela pourrait être un progrès. L'époque où les nations se sont construites dans le sang et la violence, où les frontières ont été établies au hasard des guerres, serait enfin vraiment révolue. Et ce n'est nullement contradictoire avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à gérer leurs propres affaires. les frontières qu'aujourd'hui morcellent bien des peuples et les États nationaux sur lesquels ne s'exerce pas un véritable contrôle démocratique réduisent souvent des minorités nationales au silence quand ils ne leur mènent pas la guerre. Nous nous opposons à ceux, et ils ne sont pas seulement à droite et à l'extrême droite, qui jouent sur la démagogie nationaliste en tentant de faire croire que les travailleurs de ce pays auraient quelque chose à craindre des travailleurs au-delà des frontières et qu'ils auraient des intérêts communs avec le patronat de leur pays. La classe ouvrière de France, comme celle d'Europe, est formée de travailleurs de toutes origines. Eux ou leurs familles ne viennent pas seulement de différentes régions de l'Hexagone, mais également d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de toute l'Europe et aussi du Maghreb, de toute l'Afrique, d'Asie, des Antilles. Dans les usines, dans les bureaux ou sur les chantiers, ils produisent tous pour la même économie et ils sont exploités par les mêmes capitalistes, quelle que soit leur langue ou la couleur de leur peau. La minorité de parasites qui exploitent les travailleurs, voilà les seuls étrangers au monde du travail. Parler de la nécessité des États-Unis socialistes d'Europe. Aujourd'hui, avec la multiplication encore plus grande des liens économiques, culturels, humains entre les différents peuples d'Europe, l'Europe serait trop étriquée si elle se repliait sur elle-même. Nous, les communistes révolutionnaires, nous sommes même les seuls à souhaiter l'unification complète de l'Europe, d'un bout à l'autre du continent, sans exclusive. Nous sommes pour que disparaissent les douanes, les barbelés qui séparent les peuples, pour que disparaissent ces drapeaux que les dirigeants brandissent pour jeter les peuples les uns contre les autres. Nous sommes pour que les frontières deviennent de simples limites administratives tant que les peuples éprouveront le besoin de se démarquer d'autres peuples. Mais elles finiront par disparaître complètement. Isolement, même à l'échelle européenne. Il est à l'entente fraternelle entre les peuples pour gérer enfin en commun cette planète qui est la seule patrie de l'humanité. Venons-en aux revendications immédiates que nous reprenons à notre compte dans cette campagne électorale. On nous parle de l'Europe sociale, mais il n'y en a pas. Quant à le revendiquer, c'est ridicule. Le capitalisme social n'a pas plus de sens à l'échelle de l'Europe qu'à l'échelle de la France. Le Parlement européen se vante, par exemple, de sa directive sur la durée maximum de travail hebdomadaire, fixé à 48 heures. Il n'y a vraiment pas de quoi. 48 heures n'étant qu'une moyenne sur 12 semaines, cela autorise de toute façon des semaines de 50, 60 heures, sans parler de toutes les dérogations possibles. Un autre fait d'armes du Parlement européen en matière sociale et de droits des femmes, c'est d'avoir voté l'autorisation du travail de nuit pour les femmes dans l'industrie. Alors, plutôt que se gargariser de l'expression creuse d'Europe sociale, il faut revendiquer des mesures concrètes, comme l'alignement du temps de travail sur le pays où il est le moins élevé, ou celui de l'âge de la retraite sur celui où il est le plus bas. Il faut aussi revendiquer l'harmonisation de la législation sociale par le haut, de façon à ce que les quelques protections sociales qui existent dans les pays où la situation des travailleurs est la moins défavorable soient imposées partout. Par exemple, est en rapport de 1 à 17, de 92 euros mensuels en Bulgarie à 1570 euros au Luxembourg. Mais dans 7 pays d'Europe, il n'existe même pas. Pourtant, avec l'intégration dans l'Union européenne, les prix ont tendance à augmenter. La vie n'est guère moins chère dans les grandes villes de l'Est de l'Europe que dans celles de l'Ouest. Et c'est ce qui pousse les travailleurs de ce pays à des luttes pour des augmentations de salaire. Les travailleurs de France ont toutes les raisons d'être solidaires des travailleurs qui, comme ceux de Dacia en Roumanie, luttent pour des hausses de salaire. Ils ont intérêt à l'harmonisation par le haut de leurs conditions d'existence. C'est la meilleure façon de combattre les délocalisations, en tout cas à l'intérieur de l'Europe. Sans parler de cet avantage moral, mais ô combien important, que plus les conditions d'existence des travailleurs convergent, plus s'impose l'idée que par-delà les frontières, nous sommes une seule et même classe ouvrière. Politiques égaux dans toute l'Europe, à commencer par le droit de vote pour tous ceux qui travaillent et vivent sur son sol. Les capitalistes peuvent bien, quelle que soit leur nationalité, acheter librement dans toute l'Europe des journaux ou des chaînes de télévision et peser ainsi sur la vie politique plus qu'un putain de vote. Il faut supprimer toutes les lois discriminatoires à l'égard des travailleurs en fonction de leur origine et il faut partout régulariser les sans-papiers.
Économiques, des groupes capitalistes sur l'économie.
Même les partisans les plus acharnés de l'économie capitaliste dénoncent aujourd'hui l'absence de contrôle, qui a permis d'abord que des quantités croissantes de capitaux soient orientées vers la spéculation, au lieu d'être investies dans la production utile, puis que cette spéculation prenne des formes de plus en plus dangereuses avant de conduire au cataclysme. Mais ce contrôle doit être exercé par les travailleurs eux-mêmes. Pour lutter contre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat, il faut éclairer, rendre public tout ce qui se passe dans les finances des grandes entreprises. Il faut savoir où va l'argent, quand elles spéculent au lieu d'investir, quand elles achètent d'autres entreprises, ici ou à l'étranger. Il faut que l'on sache pourquoi faire et comment elles vont les utiliser. Il faut connaître les relations entre les grandes entreprises et leurs sous-traitants, comme entre les petits producteurs et les grandes chaînes commerciales. Qui empoche les marges? Quels sont les dessous de table? Qui étrangle qui? Pour cela, il est impératif de supprimer le secret des affaires. Et on verrait que les licenciements collectifs ne sont jamais une nécessité, mais toujours un choix pour plus de profit. Et la liberté de publier les comptes des entreprises et des banques, afin que tout le monde puisse savoir quelle est la part des profits, celle des salaires, ce qui est payé et à qui. Imposer un contrôle sur les finances des entreprises est le seul moyen d'empêcher que l'argent qu'elles accumulent soit détourné vers la spéculation financière. Aujourd'hui, les serviteurs patentés de la bourgeoisie, à la tête des ministères, parmi les députés ou dans les médias, ne cesse de répéter qu'il fallait débloquer des centaines de milliards d'euros en faveur des banques, que c'était nécessaire pour tout le monde, car il fallait sauver les banques sous peine d'une catastrophe économique bien plus grave encore. Mais sauver les banques ne signifie pas sauver les banquiers, leur fortune, leur sinécure, leur mainmise sur l'économie mondiale, alors qu'ils viennent de montrer leur irresponsabilité totale. Financière, c'est l'expropriation de toutes les banques, leur réunification, en une banque centrale unique, soumise au contrôle de ses employés, mais aussi de tous les usagers des classes populaires, de tous les petits déposants. Bien sûr, tout ce programme que je viens d'évoquer n'est pas un programme électoral. Aucune élection, aucune majorité électorale sortie des urnes ne peut imposer des objectifs qui ne peuvent se réaliser que par la lutte de classe menée contre la dictature des groupes industriels et financiers par une classe ouvrière puissamment mobilisée et pleinement consciente de son rôle et de ses intérêts politiques. Charrie d'innombrables drames individuels et collectifs. Elle a au moins l'avantage, cependant, de rendre plus clairs les rapports de classe au sein de la société, et elle pose de façon plus visible la question « Qui gouverne la société ?» Le programme dont je viens de parler, nous le défendons depuis bien des années, et pas seulement à l'occasion des élections. Mais un programme, ce ne sont que des idées qui ne deviennent une force, pour reprendre l'expression de Marx, que si les masses laborieuses s'en emparent. Eh bien, la crise peut devenir un accélérateur pour une prise de conscience du monde du travail. Lutte ouvrière présente des listes, non pas pour changer l'Europe, ni pour la rendre plus sociale, car ce n'est pas à la portée du Parlement européen. Nous présentons des listes pour populariser les objectifs qui permettront aux travailleurs en lutte demain de changer le rapport de force. Alors, j'appelle à voter Lutte ouvrière. Pour la société. Affirmez votre conviction que l'économie doit être réorganisée sur une toute autre base que la propriété privée des usines, des banques, le marché, la concurrence et le profit. Marquez votre opposition radicale au gouvernement actuel, servile devant les riches et ennemi ouvert des classes populaires. Ce vote vous démarquera aussi de ceux qui veulent le remplacer, car tous gouvernent au service exclusif des plus riches. Affirmez votre conviction qu'il faut supprimer le secret bancaire, le secret des affaires, et soumettre les groupes industriels et financiers au contrôle de la population.
Chantons tous ensemble le chant des travailleurs. C'est la lutte.